Walking on the Moon à l'instant, c'était le groupe Police sur Radio Saint-Baume, 11h13.
Votre radio sur le net, radiosaintbaume.com.
De vous à moi, Madame le maire, aujourd'hui mercredi 11 mai, nous recevons bien sûr Madame le maire Christine Anfranchi d'Orgal. Et aujourd'hui, le thème de l'émission, l'agriculture, un enjeu majeur. Bonjour Jean-Marc.
Oh, ça y est,
bonjour à vous tous et toutes, donc auditrices, auditeurs de Radio Sainte-Baume. Encore une édition exceptionnelle pour une journée aussi exceptionnelle. Et c'était normal aujourd'hui, mercredi 11 mai, en recevant Madame le maire, Madame Christine Anfranchi d'Orgal, d'avoir aussi invité aussi Mademoiselle La Pluie, n'est-ce pas, qui
exactement.
Un petit peu arrose nos belles terres. Tout ceci pour recevoir aussi en même temps que Madame le maire, bien sûr, le célèbre directeur du lycée, donc Monsieur Christian Breyer, qui en plus anime la cave du cellier de la Sainte-Baume. Il l'anime parce qu'il est administrateur, ce qui est une bonne chose. Eh bien, Madame, bonjour, Monsieur Breyer, bonjour, vous allez bien?
Oui, très bien. Merci.
Bonjour, Jean-Marc.
Madame le maire, eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci, nous sommes là pour l'avenir de ce territoire magnifique, la communauté de commune de Sainte-Baume-Montrélien. Eh bien, écoutez, il faut le dire, il va y avoir de la gestion dans l'air, de l'environnement, des enjeux économiques, mais surtout, Madame le maire, quel est votre plan d'action dans ce secteur, si éventuellement, bien sûr, je sais que vous avez toujours de nombreux plans d'action, mais là, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette agriculture.
C'est une excellente idée, mais tout d'abord, je voudrais saluer les auditrices et les auditeurs de Radio Sainte-Baume. Merci à Radio Sainte-Baume aussi de nous accueillir dans vos locaux pour venir nous exprimer, surtout parler de nos projets territoriaux. Dieu sait s'ils sont nombreux et aujourd'hui, particulièrement, un projet qui est même plus à l'état de projet puisque ça devient une action. Il s'agit du devenir de l'agriculture dans son ensemble sur le territoire communautaire. Alors, comment a débuté cette belle aventure? Tout simplement, Monsieur Breyer est venu me rencontrer et là, je vais lui laisser raconter la genèse de l'histoire. Comment ça s'est passé? Comment cette idée a germé? Elle est venue de lui et d'interlocuteurs comme la Chambre d'agriculture et la SAFER qui sont venus à ma rencontre en tant que maire de la commune. Je tiens à le préciser, et pas en tant que président du territoire communautaire. Et ce jour-là, nous avons échangé et nous avons eu envie d'aller beaucoup plus loin. Monsieur Breyer, je vous laisse expliquer un petit peu le tout début de cette belle aventure.
Oui, effectivement, Madame le maire, je m'en souviens très bien. Et c'est vrai qu'au début de votre mandature, on était venu vous rencontrer, notamment un responsable de la SAFER, c'était le directeur. Il y avait aussi la Chambre d'agriculture, hein, une technicienne, notamment sur les aspects fonciers. Et mon président, Jacques Paul, hein, au niveau du lycée agricole, moi-même, pour pouvoir effectivement mettre en avant le fait qu'il y avait un lycée agricole sur la commune, qu'il y avait du foncier qui était en tout cas historiquement très orienté agricole et qu'on voyait bien cette plaine souffrir parfois de friches et d'agriculture qui se cherche par rapport notamment à des jeunes qui peuvent s'installer. Et c'est vrai qu'on vous avait présenté un projet à l'époque et moi, j'avais été très surpris parce que vous m'aviez dit en fin d'entretien, bah, banco, on va y réfléchir. Et c'est vrai que la commune de Saint-Maximin, c'est un territoire, mais la commune, c'est un territoire plus élargi. Ça paraissait assez évident de pouvoir peut-être réfléchir entre la commune et les différents acteurs de l'agriculture, un projet ambitieux. Et je dirais que ça a démarré un peu de là, d'une rencontre. Et c'est souvent par le biais de rencontres, hein, que les projets naissent. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un projet qui commence à être vraiment abouti avec des choses concrètes et on va pouvoir avec effectivement l'ensemble de nos échanges pouvoir exposer un peu tout ce qu'on met en place.
Quand Monsieur Breyer est venu me rencontrer, une fois qu'il est sorti de mon bureau, j'ai réfléchi à cette proposition qui m'a emballé immédiatement. Hein, et je me suis dit, ça ne peut avoir qu'un enjeu communautaire, qu'un enjeu sur tout notre territoire, notamment le territoire de la communauté de communes Saint-Baume-Montrélien, qui comprend des communes qui sont rurales, qui ont un aspect rural encore très 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 fort. Saint-Maximin est le booster de cette communauté de communes parce que démographiquement maintenant, c'est la ville la plus importante, c'est celle qui s'est le plus développée et c'est elle qui doit donner une impulsion pour tous les enjeux économiques du territoire. Et cela aussi, préserver la qualité des villes membres de l'EPCI, Communauté de communes Saint-Bonbon-Aurélien. Ça, historiquement, vous l'avez dit, et c'est vrai, historiquement, notre territoire est un territoire rural. Ça fait partie de nos racines, c'est le cas de le dire, pour l'agriculture d'ailleurs. C'est un bon mot, vous pouvez rire. Hein. Non ? Bon. Et historiquement, effectivement, notre territoire est très rural. Il a ancré ça dans sa mémoire et il faut le remettre au goût du jour. Le pari autour de la viticulture et notamment du rosé, le pari de devenir un fort territoire très, très actif a été gagné. Aujourd'hui, nos viticulteurs sont très, très, très actifs concernant la viticulture. Ils se sont développés et ils ont grandi de façon tout à fait cohérente. Alors pourquoi ne pas faire la même chose pour d'autres types d'agriculture, notamment le maraîchage ? Et pour cela, je vous l'ai dit, il fallait que ça ait un aspect communautaire. Ensemble, on est plus fort. Hein. Je ne suis pas la première à le dire, mais je le répète, même si quelquefois c'est galvaudé, c'est la vérité. Ensemble, on est plus fort. Et de toutes nos réflexions, de toutes nos technicités, de toutes nos actions, naissent des projets. Ce projet, il a commencé avec une signature de convention de partenariat avec la Chambre d'agriculture qui a été signée. Là, ça fait au niveau du foncier et aussi un acteur privilégié. Le directeur du LEAP, M. Braillère, lui, a été le premier à impulser et à créer cette dynamique autour de toutes ces personnes. Et quand on rencontre, quand on met autour de la table tous les partenaires ad hoc pour mener à bien un projet, ben je vous assure, même s'il y a des problèmes, même si c'est compliqué, même si administrativement c'est lourd, ça démarre et ça a démarré très fort. Et ça a démarré très fort, notamment en identifiant en préalable, et ça a été depuis très très longtemps, je crois que depuis 30 ans, nous n'avons pas de photographie de nos terres agricoles, qu'elles soient en friche, en déprise ou cultivées, sur le territoire communautaire. Et ça a été le préambule à tous nos travaux, identifier notre mosaïque agricole, nos terres agricoles sur le territoire. Et croyez-moi, il y en a. Et le deuxième travail a été, toujours avec les mêmes acteurs, de se dire comment recréer des zones de foncier pour qu'ils soient disponibles pour nos futurs agriculteurs ou nos agriculteurs existants, des zones pertinentes, cohérentes et surtout qui pouvaient offrir plusieurs hectares et pas des petites parcelles impossibles à cultiver puisque les agriculteurs devaient se déplacer d'une parcelle à l'autre, etc. C'est cette cohérence-là que nous avons travaillé. Ensuite, nous avons mis en place pas mal d'outils. Et un des outils qui est très, très, très important pour le territoire communautaire, c'est la mise en place de zones agricoles protégées. Alors, ces zones agricoles protégées, ce n'est pas du tout des sanctuaires sur lesquels nous ne ferons rien. Il n'y a aucune contrainte supplémentaire, réglementaire pour l'agriculteur avec ces zones agricoles protégées, sauf à dire que ça va valoriser leurs terres, ça va valoriser leur patrimoine, parce que ça identifiera complètement leur particularité rurale agricole sur le territoire communautaire. Et puis, pour faire tout ça, il faut ne rien oublier. Il faut identifier aussi, d'abord géographiquement, les terres, mais aussi historiquement, culturellement et socialement, quels types d'agriculteurs sont aujourd'hui sur notre territoire. On s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal d'agriculteurs qui étaient vieillissants, qui avaient mené leur vie, leur carrière, et qui n'avaient pas de transmission possible, ou en tout cas, ils ne voyaient pas de transmission pour leur terre, pour pérenniser, pour continuer cette agriculture forte sur le territoire. Nous allons les aider. Nous allons avoir des animateurs, un animateur de la Chambre d'agriculture qui viendra leur expliquer comment ils peuvent transmettre leurs terres. Et à qui surtout ? Et à qui ? On a encore là le partenaire qu'il faut, le lycée agricole de Saint-Maximin, ou les jeunes agriculteurs qui, eux, nous donneront le vivier pour faire vivre, dynamiser cette agriculture et occuper les terres. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit bien de cela. Il s'agit d'occuper, de réoccuper, de se réapproprier nos terres agricoles. Avec les nouvelles technologies et la nouvelle façon que nous avons de gérer l'agriculture aujourd'hui, c'est respectueux. Il n'est pas question de faire du bio partout. Il est question de faire de l'agriculture avec du bon sens. Et là, je récupère un mot de M. Braillère qui a tout à fait raison. Aujourd'hui, il faut refaire de notre agriculture un enjeu économique fort, un enjeu historique, social fort, mais aussi il faut travailler avec le bon sens, remettre le bon sens à l'ordre du jour.
Bien exposé, très précis. Je vois que, bien sûr, vous vous êtes penché avec, bien sûr, vos conseillers sur ce domaine de l'agriculture. Par contre, question un petit peu plus primaire de la part d'un candidat que je suis, et je vais vers monsieur donc Braillère. Ce lycée crée, bien sûr, vous avez combien à peu près d'étudiants?
On a 500 élèves et apprentis.
Sur ces 500 élèves, vous pensez qu'il y en aura combien à peu près qui vont aller vers l'agriculture?
Alors, il faut que vous sachiez qu'effectivement, au niveau du lycée, on a des formations, notamment des bacs professionnels, où l'objectif, c'est d'installer des jeunes. Et donc, ces bacs pro, installation agricole, ces jeunes en fin de troisième, donc ils ont 15 ans, 16 ans, s'engagent dans des parcours sur 3 ans, voire 5 ans. Et donc, vont aller chercher le diplôme qui va leur permettre des installations. Et c'est vrai que sur les 500 jeunes, aujourd'hui, on a moins de 10% de fils d'agriculteurs. Hein. Donc, ce sont des jeunes qui ont des sensibilités au niveau des métiers de la nature, très pratiques. Ils ont besoin d'être à l'extérieur. Et c'est ces jeunes-là qui sont les viviers intéressants pour la future génération d'agriculteurs.
D'accord. Alors, il faudrait quand même savoir aussi, une exploitation à l'heure actuelle, on entend que des fois, les petites exploitations ne sont pas fiables, rentables. Ici, dans notre région du Var, vous voyez une taille moyenne de combien d'hectares à peu près pour vivre?
Je dirais, il n'y a pas de modèle dans cette approche-là. Ce qui est important, c'est que, vous savez, une exploitation agricole, c'est trois grandes composantes. La première composante, c'est le foncier. Et Madame le maire en a parlé.
Alors, vous pensez qu'il y a assez de foncier pour installer un certain nombre de jeunes?
La commune commune intégrée dans la Provence verte, parce qu'on peut aussi élargir le territoire. On reste sur des espaces ruraux qui ont une forte coloration agricole historiquement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si les agriculteurs, pour certaines filières, ont des difficultés parce qu'ils vieillissent, parce qu'on sent bien qu'il y a une pression foncière et que tout ça fait que on est dans une crise et que dans cette crise-là, on est en train de créer un certain nombre de choses. Il est évident que le potentiel foncier, on l'a. On n'est pas dans les Alpes-Maritimes, dans les montagnes près de l'Italie. On n'est pas dans certaines zones qui ont des difficultés en termes de ruralité.
Oui. Une question, est-ce que les banques ici jouent vraiment le jeu pour aider les agriculteurs? Parce qu'on entend dans certaines régions de France que, disons, certaines banques tournent un petit peu le cou et se mettent à saigner nos agriculteurs. Est-ce qu'ici...
Les banques, je pense au Crédit Agricole, parce que c'est un vrai
partenaire. Oui, c'est pour cela.
Nous, à Saint-Maximin, on a la chance d'avoir effectivement une agence assez dynamique. Et c'est vrai que bon, il y a quand même encore des financements, il y a aussi des subventions. Moi, je pense que la puissance publique aussi accompagne un certain nombre de projets. Et c'est là qu'on peut revoir un peu les modèles d'installation, comme en tout cas on les imaginait.
Voilà. D'accord, mais donc au lycée aussi, vous leur apprenez aussi bien l'économie, pas que de gratter la terre.
Le bac pro, c'est un bac pro chef d'entreprise.
Voilà, c'est important quand même de le dire pour les jeunes, et surtout les parents nous écoutent. Il n'y a pas besoin d'aller à la Sorbonne, peut-être, ou dans d'autres universités pour terminer avec bac plus 5 en train de gratter la terre.
Ce qui est important, c'est de raisonner souvent à l'envers. Et c'est vrai qu'historiquement, on raisonne de la façon suivante, j'avais une envie de produire, je produisais, et puis j'essayais de vendre. Aujourd'hui, il faut raisonner à l'envers. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, se consomme localement? Et le fait de partir de la direction de l'aval vers l'amont permet de réfléchir autrement. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a 3000 élèves qui mangent dans des cantines scolaires à Saint-Maximin. C'est un vrai bassin de consommation. Sur les produits alimentaires, donc les denrées, qui sont consommés dans ces restaurants scolaires, 95% des produits ne sont pas issus du département du Var. C'est un constat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on peut réinventer des modèles.
Alors, j'ai eu une... une approche, un nuage m'a parlé, peut-être c'est pas un ange, de l'AOP pois chiche. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors j'ai entendu parler de ça, comme ceci, là, et puis alors je dis, peut-être que Madame le maire va me donner la solution. AOP pois chiche.
Alors je rebondis immédiatement sur ce que disait Monsieur Braillère. Effectivement, on change le procédé, on réfléchit à ce qui se vend, comment le vendre et quelle est l'envie du consommateur. Aujourd'hui, le consommateur a envie de produits frais, de circuits courts, mais aussi il adore, et moi j'en fais partie, d'avoir marqué AOP ou AOC sur les produits qu'il achète. Alors nous avons la chance sur la plaine de Saint-Maximin et notamment à Rougier d'avoir un pois chiche d'excellente qualité qui est vendu dans les plus grands restaurants parisiens. Je tiens à le préciser, et il faut qu'on en fasse un fleuron, donc il y aura une création d'AOP pois chiche. C'est une démarche qui est assez longue, assez lourde, mais qui porte ses fruits. Ce sera la première pour le pois chiche, mais après rien ne nous interdit.
Sur les lentilles
d'avoir oui, c'est fait de l'humour ce matin. D'avoir, je ne sais pas si c'est le temps à la pluie, mais
ça germe. Ouais.
Rien ne nous interdit d'avoir un territoire clairement identifié et justement d'exporter en dehors de notre territoire communautaire. On n'est pas un État dans l'État, mais d'exporter nos produits dans de la restauration de qualité, etc. Mais le premier but, c'est de se coller à l'envie du consommateur. Et aujourd'hui, le consommateur, on ne peut pas lui faire avaler n'importe quoi. Et il veut des bons produits en circuit court qu'il trouve dans des endroits où il sente que ces produits-là ont été cultivés, aimés et qui sont prêts à être dégustés.
Alors peut-être que dans quelques enjambées et lieux, il y a la fête de la courge de temps en temps, là, et du potiron. Peut-être qu'un jour on va créer la fête des pois chiches aussi.
Mais pourquoi pas ce qu'on fait sur le territoire communautaire.
Parce qu'il y a de la farine, on fait beaucoup de choses avec la pois chiche, ma chère Abby. N'est-ce pas, Laurence? Voilà. Laurence, qui est quand même l'arrière-petite-fille de M. Koff, hein, vous voyez. Surtout pas avec les lunettes.
Tout à fait, oui. Là, oui, je fais très Jean-Pierre Koff.
Non, mais rien ne nous interdit d'élargir ce qu'on fait sur le territoire communautaire au bassin de Provence Verte et même plus loin. Hein. Toutes les personnes qui veulent faire la même démarche que nous, au contraire, il faut les intégrer. D'ailleurs, on va faire des assises de l'agriculture exprès pour que tout le monde voit que le modèle, la façon de penser que nous avons sur le territoire peut s'appliquer à tout le monde.
Voilà. Eh bien, là, ça y est, on va vite aussi enchaîner avec un pôle agricole sur la commune. Et cette création d'un pôle agricole sur la commune de Saint-Maximin est en projet. Est-ce que cela va se faire? Quel est et quand? Et y a-t-il un objectif? Et sera-t-il surtout financé? Parce que it is a question, et n'est-ce pas, si le temps, c'est bien sûr de l'argent, on ne fait pas encore de réclame, ça va, on peut continuer,
non, monsieur.
Merci. Merci, parce que vous savez, il faut quand même bien vivre sur Radio Sainte-Baume. Merci. Alors, je reprends ma question. Création d'un pôle agricole sur la commune de Saint-Maximin, aura-t-il lieu? Quand, objectif et financement, bien sûr, c'est Madame le maire ou Monsieur Braillère qui nous
répondra. On va intervenir tous les deux, mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'on a commencé à penser, à imaginer, à rêver de cette politique agricole, les projets sont venus à nous, hein, notamment par l'intermédiaire de Monsieur Braillère. Ça, je ne peux pas lui enlever, il a toujours un projet d'avance. Et puis, on a eu des tas de projets qui vont dans le bon sens, des espaces tests, etc. Et le pôle agricole, c'est encore M. Braillère qui est venu me voir pour me parler de cette possibilité.
Donc c'est vrai qu'il faut être très pragmatique, hein, je pense, dans nos projets. Et pour essayer de bien comprendre l'esprit de tout ça, et on l'a un petit peu dit, c'est que l'idée d'un territoire agricole, c'est l'idée de la diversification. Hein, Madame le maire parlait de maraîchage, de pois chiches, de filières qu'on peut effectivement aujourd'hui imaginer parce qu'il y a un bassin de consommation et qu'on a un potentiel foncier et qu'on a des accompagnants avec tous les acteurs qui peuvent animer l'agriculture. Ce qui est certain, c'est que ce pôle agricole a pour vraiment objectif de pouvoir diversifier les problématiques donc agricoles et de sortir du champ purement viticole, puisqu'effectivement la viticulture, c'est le fer de lance, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est 80%, 90% on va dire de l'activité économique aujourd'hui locale, et que l'idée du pôle agricole, c'est d'arriver effectivement au niveau de la cave donc du cellier de la Sainte-Baume, la nouvelle cave qui a été construite sur la route de Barjols, de pouvoir créer donc sur cet espace on va dire trois points particuliers. Le premier point, c'est un espace multimodal. C'est en gros des chambres froides On parle de 3000 m3 intégrés sur le plan paysager, parce que ça, c'est extrêmement important lorsqu'on on essaye effectivement de faire de l'agriculture, puisque c'est produire, mais c'est aussi intégrer sur le plan paysager des bâtiments. C'est de créer un espace multimodal pour permettre à une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'agriculteurs d'avoir un espace qui leur permettra notamment de pouvoir stocker des denrées alimentaires, qui soient du maraîchage, des fruits, des légumes, enfin tout un tas de produits qui touchent notamment à l'alimentation. Il y a un deuxième espace, c'est le point de vente collectif. Alors ça, c'est un magasin de producteurs. L'idée, c'est que le producteur vende vraiment en direct au consommateur.
Genre de coopérative, alors là.
C'est une forme de coopérative, puisque tout est, on va dire, recentralisé sur la cave, la cave étant une coopérative. Et que l'idée, c'est de créer donc une section qui soit vraiment dévouée au point de vente collectif.
Et alors, les petits commerçants de Saint-Maximin, ils vont se trouver en concurrence, alors, là, qu'est-ce qui va se passer?
Il n'y a pas de concurrence, c'est très complémentaire tout ça, parce que l'idée, c'est plutôt le marché, hein, si vous voulez, le marché de Saint-Maximin avec des producteurs. L'idée, c'est plutôt de rentrer dans une logique, pas d'intermédiaire, et le producteur vend en direct ses produits.
Est-ce que vous pensez aussi que la vente par Internet, s'il y a de la fidélisation, ça peut se faire aussi?
Bien sûr, je pense que tous les moyens aujourd'hui technologiques, et je pense à effectivement la vente Internet, c'est des choses qui peuvent s'imaginer. Il y a des consommateurs aujourd'hui qui ont du mal à rentrer dans un magasin faute de temps. Et c'est vrai qu'on pense, par exemple, on réfléchit actuellement sur des paniers distribués à domicile.
Oui, comme le Localise, etc.
Voilà. Et puis le troisième point, et ça c'est important, c'est un mini-abattoir. Et c'est vrai que, vous savez, aujourd'hui, la problématique de l'élevage, c'est l'abattage. Parce qu'on est obligé d'abattre très très loin nos animaux. Et que si on veut installer, par exemple, des producteurs de poulets, simplement... le poulet étant quand même la première viande consommée dans des cantines, par exemple, ou dans des maisons de retraite, ou même chez soi. Et bien concrètement, aujourd'hui, on ne peut pas installer parce que tout simplement, il manque le maillon intermédiaire de l'abattage.
Mais là, quand vous parlez d'abattoir, vous allez peut-être un petit peu avoir un problème de concurrence de la façon d'abattre.
Non, pas du tout, puisque vous savez, tout ça, c'est réglementé et même hautement réglementé.
Non, mais il y a l'abattage halal, il y a l'abattage non traditionnel.
Donc, on rentre pas dans cette logique-là. L'idée, c'est que
effectivement. Mais il y a logique et pratique, là vous êtes devant l'actualité.
De
là.
Façon pratique, il y a des façons d'abattre et puis il y a une réglementation. Donc, ce qui est important, c'est que...
Vous gérez tout ça.
On n'est pas sur des gros animaux, c'est compliqué au niveau gros animaux, c'est des petits animaux de type volaille, de type poulet, de pintade, etc.
Et tout là, ça se passera au quartier des Batailloles, c'est ça?
Alors non, pas du tout.
Non
ça se passera sur la cave de Saint-Maximin.
Ah, toujours à la cave. Oh, oui. Voilà. Très bien.
Puisqu'il y a un peu d'espace foncier autour, vous avez vu, et qu'il y a certainement des choses à faire à ce niveau-là.
Alors, non seulement ce sera un projet pour favoriser le circuit court, les bons produits, il y aura un espace de vente réservé aux agriculteurs, mais en plus c'est un projet qui prend en compte la dimension écologique et environnementale. Hein, voilà, ça je tiens à le souligner aussi. Hein, c'est les frigos, voilà, hein, les frigos seront. Oui. Voilà, je vous laisse
pour
terminer.
Pour aller dans votre sens, moi j'y tiens beaucoup. Oui. On peut plus aujourd'hui raisonner comme il y a 20 ans, et c'est vrai que par exemple, je prends un exemple, les chambres froides, ça consomme de l'énergie. On l'a expérimenté au lycée, ça marche très très bien. Mettre des panneaux solaires pour utiliser donc l'énergie solaire et la convertir en électricité et effectivement alimenter les chambres froides en termes de consommation, forcément on réduit nos consommations et deux, on agit sur le développement durable.
Donc
c'est pensé comme ça.
D'accord, ouais. Il va y avoir donc un petit peu de création d'emplois, il y aura quelques emplois qui vont se créer
forcément.
Grâce à tout ceci.
Alors il faut savoir, c'est intéressant ce chiffre-là, parce que c'est un chiffre national et quand on le décline au niveau local, ça marche très bien. Un agriculteur installé, c'est 10 emplois derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on installe 10 agriculteurs, mais c'est 100 emplois nets. Pourquoi? Parce que il y a les agrofournitures, il y a les problématiques de machinisme, il y a de la maintenance, il y a de l'électricité, enfin il y a tout un tas de métiers qui se greffent autour avec des emplois indirects liés à l'agriculture.
Après ce beau rêve, il faudrait quand même le financer. Est-ce que vous avez quelques
pistes? Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un rêve. Non, absolument pas.
C'est
parce que c'est très concret. On a passé l'âge de rêver avec Monsieur Breyer.
Oui.
On est plutôt dans l'action.
Alors qu'est-ce qui se passe alors pour là?
Il s'agit d'une fusion de coopératives, la coopérative coopérative fruitière et la coopérative Cédé la Sainte-Baume, viticole, voilà, et qui ont compris aussi qu'il fallait s'unir pour être plus fort, pour avancer dans le monde économique. Donc il va y avoir une cession d'immobilier, une vente d'immobilier de la coopérative fruitière qui se trouve au quartier des Batailloles, et cet argent servira à financer la construction du pôle, et notamment aussi avec des aides de l'Europe, puisque ce sont des projets soutenus par l'Europe, et il y a des financements. Donc le projet, honnêtement, il ne coûte pas, c'est un projet ambitieux, mais qui est largement, très largement financé. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, même s'il n'y a plus d'argent, quand on a des vrais projets, on trouve des financements.
Il suffit. Quand on a des bonnes idées. Voilà. Oui, dont les vôtres, Madame le maire.
Ce n'est pas mon idée, non. C'est une idée collective et qui a fait que on a avancé de façon rapide, rapide que ce qu'on pensait.
L'amour du terroir et de bien vivre chez soi. Quoi.
Et d'ailleurs, au sein du territoire communautaire, j'ai créé immédiatement une commission agriculture parce qu'il n'y en avait pas. Et je veux saluer le travail de la présidente de cette commission, Michel Henry, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui viendra après les assises de l'agriculture faire une émission, si vous le permettez, Jean-Marc, spécialement pour dire l'investissement et surtout l'émulation et l'envie qu'elle a eue de s'investir, et elle s'investit formidablement, et j'en profite pour la remercier elle aussi.
Bien, écoutez, en attendant, on va quand même dire que avec tous ces projets, mon cher M. Brayer et Mme le maire, bien sûr que Radio Sainte-Baume sera toujours là, bien sûr, pour apporter le côté médiatique. Et j'espère qu'un de ces jours, on ira même sur place lycée,
avec plaisir,
voir accompagné de toute la technique. Ma chère Laurence, je me tourne vers vous parce que je crois qu'il y a des appels téléphoniques, il y a de la musique. C'est une émission vivante et nous vous écoutons.
Nous allons faire une pause musicale et j'aimerais bien que Madame le maire la présente.
Alors, vous savez que moi, je suis toujours la commerciale de notre territoire. Alors, on a un très beau lycée agricole, Provence Verte, mais aussi on a un très, très beau conservatoire. Le seul du bassin, un conservatoire de musique et de danse du Haut-Var qui se trouve à la Croisée des Arts. Et chaque fois que je viens faire une émission de radio, je passe un morceau de cette école de musique, de ce conservatoire. Le premier morceau, ce sera Banquet de Bloc Party. Et la chanteuse, ce sera Marie Caudron. Alors bravo au conservatoire. Yeah.
à l'instant avec Bloc Party sur Radio Sainte-Baume, 11h41. On reprend tout de suite le cours de notre émission de vous à moi, Madame le maire. Et nous avons en direct donc par téléphone le président des jeunes agriculteurs du Var, Monsieur Gérard Fabre.
Bonjour Monsieur Fabre.
Bonjour.
Ah, donc un jeune président de jeunes agriculteurs, le Var est en grande dynamique et vous avez tenu une assemblée générale le 3 mai à la salle des fêtes de Saint-Maximin. Est-ce que ça s'est bien passé?
Écoutez, tout à fait. On a été très bien accueillis par la commune de Saint-Maximin et les travaux ont été riches. Donc on remercie encore une fois la commune de nous avoir reçus au sein de la salle des fêtes.
Alors vous occupez surtout en tente de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs avec un point accueil-installation. Alors c'est très important pour nos auditrices et auditeurs et surtout nos jeunes et surtout les parents qui se font toujours du souci. Qu'est-ce que va faire le petit? C'est bien beau, il est allé au lycée technique, agricole, il a vu M. Breyer et tout. Et puis maintenant, est-ce qu'il peut s'installer? Parce que maintenant il ne faut plus rigoler. Alors monsieur, le point d'accueil-installation, est-ce qu'il est installé?
Alors, il est situé à Vidauban, au sein de la chambre d'agriculture du Var.
Oui.
Donc, le point d'accueil d'installation, il a pour vocation de recevoir tous les porteurs de projets, quel que soit leur âge et quel que soit leur projet. Donc, que ce soit un projet en agriculture raisonnée ou en agriculture biologique, mais également quelle que soit la culture. Donc, le but de ce point d'accueil est vraiment de donner toute l'information nécessaire aux porteurs de projets pour avoir que ce soit le bon niveau de formation, mais également le bon parcours qui lui correspond. Donc, il va leur envoyer également vers les bons interlocuteurs pour pouvoir construire son projet professionnel.
Alors, ce jeune qui veut s'installer, vous allez lui dire, tiens, à tel endroit, il y a tant d'hectares que tu peux t'occuper. Est-ce que vous avez... Alors, comment ça se passe, là?
Non, ça, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est vraiment juste un point d'information pour lui dire quelles sont les démarches pour pouvoir s'installer. Ensuite, au niveau des surfaces disponibles, c'est la SAFER, hein, qui est la société agricole d'aménagement du foncier, qui s'occupe de cet aspect-là. Nous, on a vraiment uniquement vocation à informer le porteur de projet de qu'est-ce qu'il existe en termes de formation, en termes de parcours, en termes d'aide ou en termes d'obligation pour pouvoir devenir agriculteur.
Alors attention, c'est très important aussi. Certainement, vous avez un site internet, vous avez aussi un point d'accueil, d'accroche pour lancer déjà les premières informations avant d'arriver à Vidauban.
Alors, non, notre but c'est vraiment que tout le monde passe par le point d'accueil, parce que ça doit
bien
être personnalisé. C'est-à-dire que chaque porteur de projet est totalement différent, donc l'approche doit être totalement personnalisée. Donc notre animatrice, Clélie Barral, va recevoir le porteur de projet et va adapter totalement son discours par rapport au niveau d'avancement du projet.
Alors vous travaillez, alors donc vous travaillez vraiment avec M. Breyer, disons, main dans la main, là, quand même, là.
Eh bien, c'est le but. C'est le but.
Le but, c'est de coordonner toutes nos forces. Et c'est bien l'accueil personnalisé. Je n'ai pas pu assister à votre assemblée générale, mais j'avais mandaté Arnaud de Johanny. Bon, puisqu'en plus, il est jeune agriculteur, ça tombait bien. Il avait double casquette. Il m'a dit que ça s'était très, très bien passé. Et je suis ravie que ça se soit fait à Saint-Maximin. Et je ne vous ai pas encore rencontré, mais ce sera avec plaisir, puisque vous savez que sur le territoire communautaire, nous, l'agriculture, c'est notre chouchou.
Monsieur Breyer, peut-être un petit mot à Monsieur Fabre.
Oui, c'est vrai que, en tout cas, nous, les JA, on les aime bien parce que ce sont des anciens élèves, hein, pour un certain nombre d'entre eux. Ce qui est certain, c'est qu'au sein du lycée, nous avons la chance d'avoir Arnaud Desjoigny, là, qui est le responsable des JA locales. Et c'est vrai que lui, il a l'objectif d'apporter au niveau de notre politique d'accompagnement des jeunes, gérer toute cette réalité. Le point accueil-installation, c'est quelque chose de précieux, hein, pour les lycées agricoles, parce que c'est la courroie de transmission qui permet effectivement de permettre à des jeunes qui, après une formation, de pouvoir vraiment avoir toutes les infos d'actualité, parce que ça bouge beaucoup, hein, dans le monde agricole, au niveau juridique, au niveau social, niveau économique. Et que les JA là-dessus sont très, très acteurs de cet accompagnement.
Alors, il faut quand même rappeler Monsieur Fabre et bien sûr Monsieur Breyer que toujours la nouvelle technologie, la high-tech et tout ce qui peut être donc aussi Internet rentre dans le travail de vos jeunes, n'est-ce pas, et de la formation, Monsieur.
Oui, bien sûr. Enfin, il y a le high-tech, c'est sûr, mais il y a aussi tout simplement le bon sens agricole, comme on peut l'entendre, parce que ça reste des métiers manuels, très pratiques. Et que quand on veut s'installer en tant qu'agriculteur, il faut avoir ce sens pragmatique, ne serait-ce que d'utiliser un outil, un tracteur, observer. Hein. Aujourd'hui, on le voit très bien, nos jeunes ont du mal à observer, à avoir cette pertinence dans l'observation. Et c'est les stages en entreprise, hein, notamment chez les agriculteurs, qui va leur permettre, pour un certain nombre d'entre eux, d'avoir cette acuité. Voilà.
Monsieur Fabre, avant de nous quitter, pourriez-vous nous dire combien de temps dure la réunion d'information dans votre point d'accueil et installation ?
Alors, en moyenne, on est sur une durée d'une heure, 1h30. L'animatrice va vraiment s'adapter en fonction du niveau de...
Et il doit y avoir certainement des documents à porter, quelque chose quand même, il faut...
Alors, non, la personne vient simplement avec son idée. Et ensuite, il y a un autre diagnostic qui est mis en place avec l'animatrice qui va permettre de faire le point, justement, savoir où il en est dans son projet.
D'accord. Et après, vous faites un petit suivi ou alors il est lâché dans la nature ?
Alors...
Ce qui est normal qu'il soit dans la nature.
Alors, suivi cet autre diagnostic, nous avons un suivi qui se fait sur 12 mois où on va faire un bilan à l'issue des 12 mois pour voir s'il s'est installé ou pas, d'ailleurs. Mais par contre, derrière, le jeune va se retourner vers d'autres interlocuteurs comme la Chambre d'agriculture pour pouvoir enclencher ses démarches d'installation.
Merci, Monsieur Fabre, de cette intervention combien sympathique. Un président des jeunes agriculteurs du Var, aujourd'hui en direct sur Radio 7 Baume, un invité. Monsieur, vous savez que notre radio est à votre entière disposition pour d'autres informations au cours de vos travaux. Merci et nous allons nous retourner, vers Madame le maire et Monsieur Breyer. Donc, pas de problème. Alors, il y a des lois en ce moment, il y a des transferts de compétences, il y a des soucis, il y a beaucoup de choses. Pourriez-vous nous parler un petit peu de ces communes, de ces communautés de communes, Madame le maire ?
Alors, ce n'est pas véritablement un souci, hein, les transferts de
compétences. S'il n'y a plus de soucis, alors tout va bien.
Les transferts de compétences, ce sont des vases communicants d'une collectivité à une autre, d'une institution à une autre. Nous, pourvu que nous y trouvions notre bonheur, c'est-à-dire des financements et des interlocuteurs, ça ne nous dérange absolument pas. Après, la rédaction peut-être de dire les compétences d'attribution des terres agricoles à la région, ce n'est pas tout à fait aussi simple. Hein. Mais par contre, la région devient aussi un acteur important pour travailler collégialement à notre développement. Hein. Ils sont partie prenante, on les en remercie. Mais nos leviers d'action restent les mêmes. Le fond du projet qui a vu le jour reste le même. Nous sommes ouverts à tous les partenaires. C'est très important. Plus il y en a autour de la table, et mieux c'est. Donc on n'oublie personne et presque on oblige tout le monde à venir.
Alors j'ai écouté tout à l'heure en parlant de financement, on parlait un petit peu de l'Europe, mais que fait le Provence-Alpes-Côte d'Azur, le conseil régional et le département ? Est-ce que il y a aussi quelques aides qui arrivent là aussi auprès de vous ou alors vous êtes seul avec l'Europe ?
C'est-à-dire que le département aujourd'hui a largement anticipé les transferts de compétences, donc il s'est désolidarisé de la politique agricole au niveau de sa politique générale, entre autres. Donc, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui sa préoccupation principale. C'est pour ça que nous nous tournons vers la région et vers d'autres partenaires. On va jusqu'à l'Europe pour avoir des financements. Et puis, des associations comme Terreau Paysan. Il y a beaucoup de monde. Vous savez, on a démarré un projet. Bon, on était pas très nombreux. Et là, aujourd'hui, on a énormément de monde autour de la table qui sont avec nous, qui sont parties prenantes, qui nous aident. Et les projets arrivent comme un autre projet qui va voir le jour sur la commune, l'espace test. Et ça, je vais laisser M. Barrière en parler aussi, hein, parce que sinon, je vais... Voilà.
Oui, je dirais que c'est aussi en parallèle un peu au point accueil installation. Et c'est vrai que M. Fabre, qui exposait, cette logique-là, nous avons mis en place... Et en lien avec la communauté de communes, donc des espaces tests. Alors des espaces tests, ce sont vraiment, des systèmes qui permettent à des jeunes qui sortent avec un diplôme, un bac pro par exemple, ou un BTS, avec 1 an, 2 ans d'expérience, ou pas du tout, où il puisse vraiment s'exercer en tant qu'agriculteur pendant 3 ans. Et c'est une période suffisamment longue pour pouvoir leur prêter en gros le matériel, les serres, les tracteurs, le foncier. On met à disposition à titre gracieux le foncier, tout le capital d'exploitation, et eux vont s'exercer pendant 3 ans en tant qu'agriculteur.
Et vous aurez assez de place pour tout le monde ?
Alors aujourd'hui, on part sur un espace-tête de 4 hectares et demi. Oui. Il y a 2 maraîchers donc, qui vont s'installer. On imagine bientôt, d'ici un an, je pense, un nouvel espace-test qui va accueillir notamment un producteur de poulets, donc de l'élevage. Et dans ce cadre-là, ces jeunes qui ont 20 ans, 22, 25 ans, pendant 3 ans, vont s'exercer en tant qu'agriculteurs, en jouant vraiment à l'agriculteur. C'est-à-dire qu'ils ont un numéro MSA, ils font une activité économique, ils produisent, ils sont sur les marchés, ils sont sur le point de vente collectif, ils vont approvisionner les cantines scolaires de Saint-Maximin, l'EHPAD, les trois tilleuls, etc.
Oui, mais dans tout cela, c'est très bien, mais vous n'avez pas quelques problèmes avec la législation, parce que dans certains cas... alors, ils sont tenus comment, ces gens-là ? Ils sont salariés ?
Ils sont pas salariés, ils ont un numéro d'agriculteur. Alors, c'est piloté par une couveuse, hein. C'est un système de pépinière d'entreprise, si vous voulez.
Oui.
Où l'idée, véritablement, avec notamment la DAR, Terreau Paysan, le lycée agricole, la chambre d'agriculture, les JA rentrent là-dedans indirectement aussi. Accompagne en gros ces jeunes-là, puisque au bout de 3 ans, l'objectif c'est quoi ? C'est d'arriver effectivement à faire que le jeune puisse dire « je sais être agriculteur », c'est pas qu'une vision de l'esprit.
Et nous, à ce moment-là, voilà. Nous intervenons pour lui proposer du foncier, puisque si nous pouvons le garder sur le territoire communautaire, voilà, la chaîne, elle est vertueuse. Tous les maillons s'imbriquent les uns entre les autres.
Sachant que c'est important, et Mme le maire l'a dit très très bien tout à l'heure, il n'y a plus de fils d'agriculteurs qui s'installent. Ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément issus de l'agriculture. Et la nouvelle agriculture qu'on est en train de mettre en place, c'est une agriculture de jeunes non issus de l'agriculture, même si leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents étaient agriculteurs, comme nous tous, toujours est-il qu'ils n'ont pas ce savoir-faire.
Et les lois sociales qui arrivent, les nouvelles dispositions, ça gêne un petit peu, ça, tout va bien, ça, pas de soucis.
On est dans un monde économique, il est mondialisé pour une partie, localisé pour
l'autre. Oui, mais par exemple, là, quand il va arriver le temps des vendanges, il paraît qu'il y a quelques soucis, il paraît que les bénévoles n'existent plus, par exemple, paraît-il. Oui, est-ce que c'est une rumeur
c'est pas, en tout cas, ce n'est pas un problème majeur.
Non.
Ah, donc ce qui veut dire que les vignerons peuvent bien déclarer tout leur personnel, il n'y a pas de problème de...
Au niveau de la saisonnalité, on a des jeunes avec des CAP qui cherchent des contrats à durée déterminée, saisonniers, enfin ce sont quand même des... il faut savoir que le métier d'agriculteur, l'agriculteur a besoin de main-d'œuvre à un moment donné. On ne peut pas rendre tout technologique.
C'est les intermittents.
Et que des jeunes que nous avons, qui ne sont pas très matheux, pas très littéraires, et on en a quelques-uns dans certains collèges et certains lycées, n'ont qu'une seule envie, hein, c'est de rentrer dans une parcelle de vigne et de travailler. Hein.
Alors, c'est une richesse. Oui. Et ça, c'est une richesse. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, particulièrement en France, où on a presque menti aux jeunes en leur disant que les métiers manuels, il fallait les abandonner métiers. Pour qu'ils fassent des études qui n'aboutissent à rien. Ils ne voient pas le bout du tunnel, ils sont désespérés. Aujourd'hui, nous, on offre cette chance d'avoir un vrai métier qui a une vraie valeur et de s'épanouir complètement.
Et avec des vrais revenus.
Et
est-ce que donc il y a un petit esprit de compagnonnage ? Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent d'une autre région qui peuvent venir aussi vers vous ?
Alors, tout à fait. Nous, au niveau du lycée, on a une mission qu'on appelle la coopération internationale. On est en lien avec un certain nombre de territoires français, mais aussi européens. On échange avec l'Allemagne, etc. Et ça, c'est important parce que l'ouverture, c'est une ouverture aujourd'hui européenne et qu'un jeune ne peut pas être fermé uniquement sur quelques espaces. Et il est évident que quand on veut être agriculteur, on est un chef d'entreprise ouvert sur le monde et on est capable de réfléchir et d'être critique sur un certain nombre de choses, de la production à la consommation.
Maintenant, bien sûr, on va passer à un élément très, très sympathique. On va parler un petit peu du bio, mais est-ce que peut-être on fait de la musique avant ?
C'est vous le chef, Jean-Marc.
Laurence, on va se préparer parce que comme c'est encore des créations musicales de Saint-Maximin, on est en train de préparer tout le grand orchestre.
Nous, on consomme local.
Voilà. Alors, c'est quand même important aussi, c'est que... avec donc toutes vos activités, il y a aussi quelques fêtes qui certainement qui vont revenir, ces fêtes traditionnelles, c'est assez important. Et pour l'heure, nous allons donc bien sûr parler et de fêtes et de musique. Et je vous remercie, Madame le maire, de me rappeler que Laurence est en direct pour nous donner la suite des événements Music and Music. C'est Madame le maire qui nous donne le titre.
Tout à fait.
Encore un morceau interprété par notre conservatoire. Je sais, j'insiste, mais c'est important quand on a quelque chose de bien sur une commune ou sur un territoire, de le rappeler plusieurs fois. Notre conservatoire de musique et de danse du Haut-Var pour Isle and Ride de Radiohead, un morceau très connu. Et la chanteuse, c'est Claire Maisonob. Merci.
Très connu, très connu.
Bah, bien sûr.
Radio Sainte-Baume, il est midi.
Il est midi, bon appétit. La suite et dernière partie de notre émission de Vous à moi, Madame le maire. Jean-Marc.
Eh oui, ma chère Laurence, il faut quand même le rappeler, de Vous à moi, Madame le maire, une émission de référence, d'information, avec aujourd'hui, bien sûr, Monsieur Brayer, qui est notre invité et qui s'occupe du lycée agricole et aussi de la coopérative. Mon dada, et oui, on est dans la nature, chacun a son dada, et moi, c'est surtout l'emploi. Et je suis très content, Madame la maire et Monsieur le directeur, de voir que vous vous occupez de cet emploi. On va quand même le retrouver, bien sûr, dans quelques temps. Et c'est le moment aussi de rappeler
que peut-être votre région varoise était même avant l'heure dans le bio, parce que vous avez toujours eu des agriculteurs soucieux de bien travailler. On ne gratte pas la terre dans votre région, on la travaille et on l'enrichit. Et c'est pour cela que vous avez aussi un très beau terroir. Alors le bio, c'est un petit peu parisien pour les uns, mais vous, c'est carrément votre culture, madame.
Alors, le bio, c'est très bien, hein. Moi, je suis tout à fait partisane, il faut en faire, mais il faut ne fermer la porte à aucune façon de cultiver. Alors, le raisonner, c'est aussi une très, très belle façon d'aimer et de respecter la terre. Le bio aussi, ça peut être un enjeu, un volet d'action à une culture beaucoup plus élargie. Et ça reste important parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps, c'est très tendance, le bio. Donc, il faut qu'on en profite, qu'on ne rate absolument pas ce tournant et qu'on s'y mette activement. Je crois qu'on a fait en sorte d'avoir tous les outils nécessaires pour créer un bon terreau, si j'ose dire. À l'agriculture bio, si Monsieur Braillard veut ajouter quelque chose.
Oui, mais enfin, moi, le lycée aujourd'hui, il est certifié bio sur l'ensemble de ses productions, en maraîchage, en volaille,
voilà,
etc., en fromage, en yaourt et j'en passe. Donc, c'est vrai que nous, on est rentré dans la certification bio. Bon, l'intérêt du bio, c'est le cahier des charges. C'est-à-dire qu'on peut plus dire qu'on ne respecte pas un cahier, puisque effectivement, on a un bureau de contrôle qui vient régulièrement nous voir, nous donner des conseils, et puis apporter la certification qui puisse dire aux consommateurs, voilà, le produit en question est passé par un cahier des charges. Après, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas une agriculture, mais il y a bien des agricultures. Et on ne peut pas opposer forcément les bio contre les antibio. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et qu'il y a des produits qui sont très difficilement cultivables en bio. Et il faut le reconnaître. Et dans ces aspects-là, il faut mieux raisonner, il faut mieux avoir du bon sens. Et c'est vrai que le tout chimique, non, mais réfléchir parfois à quelques traitements bien adaptés avec un raisonnement sur notamment les problèmes de biodiversité, d'agroécologie.
Le travail du lycée qui quand même aussi instruit vos jeunes à, bien sûr, savoir équilibrer les produits.
Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, le nombre de produits chimiques va diminuer en France, hein, puisqu'on n'arrête pas d'en enlever sur les index phytosanitaires et que les agriculteurs seront de façon obligés de raisonner autrement.
On en a peu phréatique, des fois.
Et on parle de pollution, on parle de problèmes de santé, et je crois que c'est vraiment une prise de conscience collective et les agriculteurs sont sensibles à tout ça.
Merci M. Braillard. Une question quand même. Oh, j'ai eu, je ne sais pas, un rêve, mais on m'a parlé de la loi TAFTA. Alors moi je croyais que c'était du tissu et tout, le TAFTA et tout. J'étais là.
C'est un genre de tissu élargi, c'est vrai.
Mais là, madame le maire, en vous voyant, je dis, je ne vais pas poser cette question peut-être bête, mais qu'est-ce que cette loi TAFTA?
Alors, la loi TAFTA, ça n'a rien inventé, hein. C'est du libre-échange sur bah, c'est mondial, c'est la mondialisation, c'est l'ouverture des portes pour le monde économique. Mais nous, localement, ça ne va pas changer grand-chose à notre vie, dans la mesure où on va développer une politique agricole locale. Et c'est ce qu'on recherche. La mondialisation, le libre-échange, c'est très bien pour un tas de choses, hein, certainement, mais il y a des produits qui ne peuvent pas de traverser, voyager de la même façon qu'une paire de jeans, par exemple. Tout ce que nous mettons en place au niveau de l'agriculture, et toutes les agricultures et toutes les filières, nous n'en oublierons aucune, fait que la loi TAFTA, elle est bien loin de nous. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, ce qui est surfer sur la vague de la mode, c'est faire un enjeu économique, enrichir notre terre, faire une vraie richesse de notre ruralité, mettre au cœur de l'emploi nos jeunes agriculteurs et tous les emplois induits que M. Braillard a décrit, hein, indirects, tous les emplois indirects, mettre cet enjeu économique, devenir une force économique et c'est pour tout le territoire. Et on va le faire avec des circuits courts, donc la loi TAFTA, on en est loin. On en est très, très loin.
Eh bien, écoutez, on remercie comme cela. C'est une chose un petit peu, comme on dit, encerclée. On la laisse où elle est, cette petite loi. Dieu sait s'il y en a qui sont aussi beaucoup et très inutiles de ces lois. Mais en attendant, la loi de la nature est importante et on ne peut pas la changer. Pour l'heure, eh bien, il y a quand même quelques combats et des priorités. Vous le savez, mesdames et messieurs, les combats, bien sûr, c'est toujours l'emploi, c'est aussi, bien sûr, défendre son territoire. Et dans ce territoire, savoir, madame, monsieur, il y a de l'urbanisation. Alors, de temps en temps, vous avez plutôt le promoteur qui vient vous prendre un petit peu de terre et vous, vous dites non, aujourd'hui, je préfère faire de l'agriculture. Est-ce qu'on peut arriver à quelque chose? Comment on fait pour bloquer ces envies, là? Parce qu'il y a des envies du foncier, là. Il y en avait même des gens qui comptaient même faire des golfs et tout à une époque, là, tout ça. C'est terminé, tout ça.
Alors, c'est toujours une question de bon sens et d'équilibre dans la vie. Un territoire, il doit être géré de la même façon, de façon équilibrée. Ça veut dire qu'on n'oppose rien, on ne privilégie rien, on essaie d'être pertinent dans l'aménagement territorial. Et quand on met en place des politiques, on s'assure qu'elles ne vont pas contrarier une autre politique que nous mettons en place. Donc tout ça, c'est un travail de cohérence et d'harmonisation qu'il faut réfléchir bien en amont. Hein. Et il faut avoir une vraie vision territoriale, pas à un an, pas à 5 ans, pas à 6 ans, mais à 30 ans. Hein. Donc on cède des partenaires institutionnels et autres qui peuvent nous aider. On utilise leur logistique, leur technicité. On cède de nos partenaires financiers. Et en même temps, on essaie d'appliquer notre vision à ce territoire. Pour ce qui concerne la politique agricole, comment faire pour qu'elle ait sa véritable place? Eh bien, il faut prendre un plan du territoire communautaire complet, identifier ce qu'il faut défendre, ce qu'il est pertinent de défendre. Et pour défendre ce foncier, on a des outils, et notamment le PLU, déjà, le plan local d'urbanisme, qui permet d'identifier ces terres-là ou à préserver, ou à sanctuariser quelquefois, ça peut être possible aussi. Et puis on a un autre outil qui s'appelle la veille active que fait la SAFER sur les ventes de terres agricoles. Et cette veille, elle permet de voir s'il n'y a pas de spéculation sur les terres agricoles.
Et vous pouvez préempter des fois
régulièrement. Aujourd'hui, on peut s'apercevoir si un agriculteur vend sa terre agricole à un prix qui est déraisonnable, et on peut intervenir et lui demander pourquoi, etc. C'est pour éviter la spéculation. Et le plus gros outil que nous avons à notre disposition, c'est créer des apps. J'en ai parlé tout à l'heure. Les apps, ça s'appelle des zones agricoles protégées. On identifie sur son territoire, à l'aide d'une cartographie, les terres qui nous paraît opportun de protéger et pour surtout, j'y tiens, pour aider l'agriculteur présent et l'agriculteur futur à avoir un vrai bien qui va lui permettre de se développer économiquement, de faire vivre sa famille et d'employer du personnel.
Alors, ces apps, elles sont sur quel territoire là? Ça va que sur la commune de Saint-Maximin ou ça va un peu plus loin? Plusieurs communes qui ont plusieurs apps?
C'est sur le territoire communautaire. Il y a des communes qui sont très rurales, comme la commune de Pourcieux, par exemple, ou la commune de Rougier, qui n'ont que des terres agricoles. Hein, donc, elles n'ont pas besoin d'avoir des apps, d'identifier. Elles n'ont pas de pression foncière.
Alors, très bien. Alors, on va revenir, parce que là, nous sommes très profanes. Grâce au lycée agricole, nous pouvons donc dire à un jeune, éventuellement, ou sur Pourcieux ou d'autres, il peut trouver de la terre.
Demain, on pourra dire mieux. On pourra offrir ces hectares de terre avec le travail qu'on fait, voilà, en créant des zones agricoles protégées.
Oui, mais c'est très important de dire quand même à ces personnes que ce n'est pas que sur Saint-Maximin, c'est toute cette...
C'est sur tout le territoire.
Pourriez-vous nous la situer un petit peu géographiquement, ce territoire?
Alors, vous ne le connaissez pas encore depuis que je vous le répète.
Il faut répéter.
Saint-Maximin.
Il y en a qui nous disent que tout va mieux. Alors, moi, je voudrais savoir que tout va bien.
Alors, sur le territoire communautaire, les membres, les adhérents, les communes adhérentes sont Saint-Maximin, bien entendu, Rougier, Pourcieux, Pourrières, Nance-les-Pins, Plan d'Op Sainte-Baume et Ollières. Donc nous avons 8 communes qui appartiennent à ce territoire.
Et il y a beaucoup de chasseurs aussi dans ce territoire.
Ah oui, ça. D'accord. Oui. Hein. Donc pour en revenir à ce qui nous intéressait, les apps, aujourd'hui, ce sont surtout les communes où il y a de la pression foncière, où il risque d'y avoir de la spéculation foncière, où il est intéressant de créer ces zones agricoles protégées. Elles ne contraignent en rien, de façon supplémentaire, l'agriculteur, bien entendu. Juste, elles valorisent ces terres. Voilà. Ensuite, on peut, pour continuer dans cet enjeu, Christian Braillard l'a dit, on va aider les jeunes agriculteurs à s'installer. Il y aura les espaces tests et puis il y a aussi les rendez-vous personnalisés organisés par les jeunes agriculteurs. C'est très important. Il faut de la personnalisation et du dialogue. Et c'est très bien qu'il n'ait pas la possibilité de venir par le biais d'un site internet, parce que moi, je crois beaucoup à la rencontre et à l'exposé de son projet.
Est-ce que vous pensez faire une opération portes ouvertes toutes les années, une opération...
Déjà.
Alors, il y a une porte ouverte le 28 mai, donc c'est un samedi le matin, donc toute personne peut venir visiter voilà, l'établissement.
C'est pour ça qu'il faut...
Ça, c'est le lycée agricole qui l'organise, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on réfléchit sur les assises de l'agriculture en Provence verte. Et en lien avec la commune qui va apporter une part de financement derrière tout ça, l'idée c'est de mettre tous les acteurs agricoles autour d'une table et vraiment de pouvoir...
Et aussi tous les médias régionaux, locaux et nationaux
et puis,
même.
Surtout tous les acteurs
et puis
concernés.
Poser les grandes orientations pour une future agglomération parce que je crois qu'il y a un enjeu aussi territorial. Qui dépasse un maximum et moi je réfléchis beaucoup sur l'idée de la Provence verte aujourd'hui parce que on sent bien que on est dans des espaces ruraux, qu'il y a des acteurs agricoles, qu'il y a le problème du foncier, qu'il y a le problème de l'installation et que c'est en mettant tous les acteurs autour d'une table qu'on arrivera à résoudre un certain nombre de problèmes.
Alors j'ai été un petit peu interpellé par le pois chiche avec votre AOP. Est-ce qu'il y a un plan marketing là-dessus, un logo, est-ce qu'il y a les conditionnements, est-ce qu'il va y avoir une petite usine qui va se créer de conditionnement du pois chiche, on ne sait jamais.
Ça faudrait... fait partie de la mise en place d'un AOP. Hein, oui, tout cela fait partie de la mise en place.
C'est très important. L'idée,
c'est d'installer des jeunes sur du pois chiche, sachant que l'idée, c'est aussi ne pas faire que du pois chiche.
Non, mais je veux dire, ça peut être
une diversification de production dans le cadre de la durabilité agricole.
Voilà, si par exemple, dans le prochain salon de l'agriculture à Paris, le conseil régional a un stand, on peut s'identifier avec un pois chiche qui... Madine Saint-Maxime.
Sachant que nous avons fait des essais au niveau du lycée, dans la légumerie du lycée, parce qu'on a une légumerie. Et qu'aujourd'hui, on peut remplacer dans nos menus, on va dire un steak haché, par une solution pois chiche.
Voilà,
et c'est vrai qu'aujourd'hui, le tout viande n'est pas la solution. Les protéines, on peut les avoir au niveau du végétal aussi.
Surtout que là, vous avez quand même aussi un atout par rapport, par exemple, à nos amis camarguais qui ont des problèmes avec le riz, compte tenu aussi bien qu'en ce moment, avec les parcs nationaux et tout, la agriculture est en train de baisser. Et malgré ce, donc, on essaye un petit peu de la soulever. Donc, il faut toujours trouver aussi des produits leaders qui puissent un petit peu intéresser les médias et faire de sorte que, bien sûr, on parle de notre territoire et nous en sommes très fiers. Eh bien, mesdames et messieurs, quel plaisir d'avoir échangé avec un homme de terrain et, bien sûr, une grande dame de l'art.
Une femme de terrain aussi, on peut le dire. Hein.
Surtout que vous êtes beauté aujourd'hui, madame le maire, pour braver les intempéries. Et Dieu sait si il y a quelques intempéries aujourd'hui à braver. En attendant, eh bien aussi, tout se termine par des chansons et aussi des fêtes. Il y a quelques festivités à nous donner. Madame le maire, je crois que pour le 14 et 15 mai, nous allons avoir bien sûr un magnifique salon des fleurs, un beau marché.
Ah oui, comme chaque année, nous aurons la fête des jardins. Alors n'oubliez pas, si vous voulez cultiver, la terre aura bien été arrosée, tout va pousser. Venez le 14 et 15 mai, très 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 nombreux.
Et je rajouterai, le lycée agricole y participera. Il y aura des jeunes qui feront des démonstrations de bouturage. Donc venez, d'autant plus nombreux.
Apprenti jardinier, venez.
Eh bien, c'est une bonne chose, mais aussi, bien sûr... vous savez qu'il n'est pas interdit de faire aussi des ateliers de gastronomie et de sculpture de légumes. Vous savez que la sculpture de légumes est importante et ce qui fait aussi que l'on a plus plaisir donc à chatoyer le légume plutôt que des produits usinés et donc faits dans des machineries à compression. En attendant, au fil de cette journée, je vais tirer moi-même aussi ma révérence. Vous remercier, Madame le maire. Et,
merci,
monsieur,
Jean-Marc.
Et la prochaine émission, bien sûr, toujours sous l'œil avisé de notre grand ami Gérard David, il ne faut pas l'oublier, qui est là avec, bien sûr, son pinceau, pire que Picasso, qui me disait que la vie commençait au choix. Eh bien, nous allons choisir, mon cher ami, que le 15 juin, nous nous retrouverons ici même pour recevoir Madame le maire sur un thème ô combien important. Du reste, je viendrai avec mon bermuda et ma serviette éponge, car on parlera de la saison estivale.
Ah, j'espère qu'il fera meilleur. Au revoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Merci à Radio Sainte-Baume.
Merci à vous.
Bon appétit à vous tous et on se retrouve avec Laurence. C'est un programme number one car elle est au top.
Merci beaucoup Jean-Marc. Merci beaucoup à nos invités. Prochaine donc émission de... Moi, Madame le maire, ce sera donc le 15 juin. La musique reprend son cours tout de suite avec les Four Non Blondes pour WhatsApp.